vraiment très faible. Vous ne le voyez pas, mais ouf, que la force de Christ soit en moi. Alors c'est vrai, la nuit de dimanche à lundi, j'ai très peu dormi parce que j'avais sans cesse des images. Et des images et je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis quand je me suis levée, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, waouh, quoi, c'est pas moi ça, ça ne servait à pas de moi. Et puis le lendemain, quand j'ai relu, je me suis dit, mais c'est un peu bête, quoi. Mais je m'étais, voilà, Patrick avait dit, tu prêches dimanche, mais le mardi, j'étais déjà dans le doute. Je me suis dit, oh, mais Seigneur, c'est bête au fond, tout ça, toutes ces images. En fait, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je ne vais rien vous apprendre de plus que ce que vous ne savez. Et vous savez aussi que je ne suis pas une théologienne, je parle avec mon cœur. Et ce matin, j'ai envie de vous parler avec mon cœur. Alors, si vous voulez, je vais mettre un titre à mon encouragement. C'est « La vie chrétienne, un appel à la discipline. La vie chrétienne, un appel au combat. La vie chrétienne, une course. » Vous savez, la semaine passée, on a vu que quand on était faible, il fallait qu'on soit fort, etc. Et on a vu l'histoire de Paul qui a combattu le bon combat, etc. Et en fait, ça m'a travaillé. À mon avis, c'est pour ça que la nuit, j'en ai très peu dormi. Et je voudrais, Lara, que tu prennes, en fait, j'avais mis une petite feuille, que tu prennes Timothée 4,7. Ce sont des versets qui sont connus, qu'on a déjà partagés beaucoup ces derniers temps. Ce verset, il dit, c'est Paul qui dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul, ici, il parle d'un combat. Dans Acte 10, 24, Luc dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Luc, ici, il parle d'une course. Il s'est engagé dans une course. Paul parle du combat, Luc parle d'une course. Et on voit aussi dans 1 Corinthiens 9, 24, tu n'es pas obligé de le prendre, mais tu peux. Paul dit, je cours de manière à remporter le prix. Paul court de manière à remporter le prix. C'est qu'il y a un prix. Il y a un prix. Dans 1 Corinthiens 9, 26, Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Paul n'est pas en train de courir comme ça, comme un gugus, pardon. Il court comme un athlète, il court pas comme ça en battant de l'air, il court comme un athlète, il court, voilà. Il court, ce n'est pas une aventure. Il n'est pas en train de cueillir des pâquerettes d'un côté et puis de l'autre. Il court. Paul dit aussi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. À Timothée, Paul dira aussi dans 2 Timothée 2,5, combat le bon combat de la foi. On peut dire que Paul est un athlète. Amen. On peut dire que Paul est un combattant. Vous êtes d'accord avec moi? Toi-même, tu es un athlète. Et toi-même, tu es un combattant, une combattante pour Christ. Vous savez, Paul n'a pas toujours été ce qu'il était. Avant, Paul s'appelait Saul. C'était son nom juif. Paul était un pharisien qui a rencontré le Seigneur. Vous savez, Paul était un persécuteur des chrétiens. Il les a jetés en prison. Il les a mis à mort. Et puis, à un moment donné, il a reçu un appel. Il a reçu l'appel de Dieu. Il a été aveuglé alors qu'il se rendait à Damas pour emprisonner les chrétiens de Damas. Il a été aveuglé. Et il a entendu une voix qui disait, « Paul !» Dans Acte 9, 4, « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et Paul dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Mais Paul savait très bien. Il y a une lumière qui est apparue, il a entendu la voix, il savait très bien que c'était Dieu qui lui parlait. Et Paul s'est demandé ce qui lui arrivait. Et Paul a perdu la vue pendant 3 jours. 3 jours, il n'a rien vu, il n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours. Et un homme appelé Ananias a eu une vision, un songe, lui disant de se rendre à Damas dans telle rue et de parler à un Paul. Et c'est ce qu'il a fait, Ananias. Et vous savez, à partir du moment où Ananias a prié pour Paul, les écailles sont tombées de ses yeux et il a vu. En fait, avant d'être chrétien, nous sommes comme Paul, nous sommes aveuglés. Nous ne voyons rien. Moi, avant de connaître le Seigneur, je faisais ma vie à ma façon. Je faisais vraiment ma vie à ma façon. Et je persécutais aussi les gens qui croyaient en Dieu, parce que je trouvais ça un peu ridicule. Vous savez, quand quelqu'un dit « je crois en Dieu, je vais à l'église », allez, arrête, quoi, ne me dis pas que tu vas à l'église. On est un peu comme ça quand on n'a pas la foi. On se moque un peu des gens qui sont chrétiens ou qui ont une autre façon de penser que nous. Et Paul a dû être aveuglé pour réellement voir. Il a dû perdre la vue, perdre la raison quelque part pour voir. Et vous savez, c'est ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. J'ai été aveuglée pendant des années et il a fallu que je recouvre la vue. Il a fallu que Dieu m'ouvre les yeux et que je puisse voir, et que je puisse entendre son appel. Alors je suppose que si tu es là ce matin, c'est que comme Paul, tu as répondu à l'appel de Dieu. Paul, il a eu une vie transformée. À partir du moment où Ananias a prié pour lui, pour qu'il recouvre la vue, il a été rempli du Saint-Esprit et Paul s'est levé tout de suite. Il n'a pas dit « Oh, je vais un petit peu arranger mes affaires ». Il s'est levé et il a été prêché. Il a été prêché et sa prédication était une prédication de puissance. Quand on répond à l'appel de Dieu, ce n'est pas pour rester assis dimanche après dimanche sur le banc de l'église. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu, il y a une vie transformée. Si tu as accepté le Seigneur et que ta vie n'est pas transformée, il faut se poser la question. Parce que Dieu transforme les vies. Vous savez, moi j'étais une guindailleuse comme personne. À partir du moment où j'ai accepté Christ dans ma vie, ça a été fini. Je ne pouvais plus guindailler. Vous savez, quand on est appelé et qu'on répond à l'appel de Christ, ça demande un mouvement. Ananias, il a entendu, il a vu un songe. Dieu lui a dit, écoute Ananias, tu vas aller trouver Paul et voilà, tu vas prier pour lui. Mais Ananias n'était pas bête. Il avait entendu parler de Paul. Il savait que Paul persécutait et Ananias avait peur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va devenir de moi-même? Tu veux que j'aille prier pour ce Paul, mais il est capable de me tuer. Mais Ananias a entendu la voix de Dieu. Il a entendu l'appel de Dieu et il a obéi. Il aurait pu se dire, ah non Seigneur, moi... Je n'y vais pas, j'ai le trouillomètre à zéro, je n'y vais pas. Mais qu'est-ce qu'il en serait advenu si Ananias n'avait pas obéi? Si Ananias n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, Paul serait toujours persécuteur. Paul serait toujours, et on ne serait peut-être pas ici. Il a fallu qu'un homme comme Ananias prenne son courage à deux mains. Laisse tomber ses émotions, ses peurs, ses craintes. Ananias a obéi. Et nous sommes appelés à obéir. Ne reste pas assis dimanche après dimanche sur ton banc. Non, nous sommes appelés à obéir. Le tout est de commencer sa course. Alors, je ne sais pas quand tu as été appelé. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a 30 ans, peut-être qu'il y a 10 ans, peut-être que tu n'es même pas encore entré. Peut-être que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu qui t'appelait. Mais je te dis que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu te cherche et Dieu a besoin de toi. Dieu est le Dieu qui transforme les vies. Moi, il a transformé mais complètement ma vie. Pendant un an, j'ai perdu pied. Tellement ma vie était chamboulée. Dieu a commencé à guérir, Dieu a commencé à transformer, c'est ce qu'il a fait dans la vie de Paul. Paul n'avait plus le même regard sur les chrétiens. Au contraire, il prêchait la parole avec puissance. Mais il faut que tu commences la course. Et quand tu as commencé la course, il faut que tu la commences à ton rythme. Ne commence pas à courir comme un malade, sachant que la course, elle est longue. Il faut beaucoup de résistance, il faut de l'endurance, de la persévérance pour courir. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'était une course de toute une vie. La Bible dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dans Ecclésiaste 7-8. Il y a des chrétiens qui commencent la course comme des fous, mais ils n'arrivent pas au bout de la course. Le but, c'est d'arriver au bout de la course. Vous êtes d'accord? Vous dormez? Vous êtes d'accord? Le tout, c'est de ne pas entrer dans la course et puis après d'abandonner. C'est pourquoi on s'est levé. La bataille, elle est longue et elle est éreintante. Mais ne nous décourageons pas. Nous semblons faire du surplace parfois. Qui n'a pas l'impression de faire du surplace parfois? Mais on continue, on persévère, on obéit à la voix de Dieu. Car Dieu a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu le monde et il est à tes côtés. Dans Colossiens 1, 29, Dieu dit, « La force de Dieu agissant en vous. » Vous savez, je pense que si on n'avait pas le Saint-Esprit en nous, d'ailleurs c'est ce Saint-Esprit que l'on reçoit à notre conversion, si on n'avait pas ce Saint-Esprit, cette force en nous, on se fatiguerait et on ne pourrait peut-être pas non plus combattre jusqu'au bout. Mais sache que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit qui ressuscite à Christ est en toi. Et c'est lui qui va t'aider à courir la course. Vous savez, lors de notre course, on va être amené à courir toutes sortes de courses. On va faire du cross. Moi, j'aime pas le cross, mais on va faire du cross. Tu vas peut-être courir sur une piste toute ta vie aussi. Peut-être que tu vas faire des courses relais. Peut-être que tu vas faire, toutes les courses qu'il peut y avoir, un marathon. Mais tu dois courir. Si tu as répondu à l'appel de Dieu dans ta vie, tu dois courir. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez entendu l'appel de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Ou alors vous êtes des touristes. Ça peut, hein, vous pouvez être des touristes. Hein. Ou peut-être que vous êtes en découverte aussi, en recherche. Mais sache que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Toi, personnellement. Toi, Cécile. Toi. Toi, Clara. Toi, Carmen. Toi, Maïté. Toi, Ludovic. Dieu t'appelle. Et il t'appelle à courir maintenant. T'es un sportif. T'es un sportif. Tu es appelé à courir. Dans notre discipline, il nous faut respecter des règles. Ça va? Quand on a répondu à l'appel, on ne peut pas courir comme ça, n'importe comment. Il y a des règles, il y a des commandements, il y a la parole de Dieu. Et vous savez, on a un ennemi qui, lui, ne veut pas qu'on court. Il ne veut pas qu'on avance dans notre course. Il veut que nous fassions du surplace. Et souvent, l'ennemi, quand on est dans une course, moi, je ne sais pas, quand on faisait les courses scolaires, là, vous voyez comment le cross, hein, bon, on avait un parcours à suivre. Ben, je suivais le parcours, très doucement, mais je suivais le parcours. J'étais souvent dans les dernières, mais le tout, c'était d'y arriver. Et je suivais le parcours. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est comme ça. Dieu a tracé un parcours pour toi. Il te dit, voilà, tu vas à gauche, à droite, et puis tu vas par là. Mais l'ennemi, il ne veut pas que tu prennes ton parcours. Il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait miroiter un beau chemin tout vert avec des pâquerettes, alors que ta piste, là, la piste que tu dois suivre, elle est boueuse. Alors, nous, les filles, on n'aime pas de se salir. Hein. Donc, on va courir dans cette piste verdoyante. Et il te dit, en plus, écoute, si tu prends ce chemin, tu vas gagner du temps. Prends ce raccourci, tu vas voir. Il va te faire gagner du temps. Mensonge. L'ennemi est un menteur. Et ce qu'il veut, c'est que tu te perdes. Alors cette piste qui était verdoyante, elle est sans issue. C'est un chemin sans issue. Et puis quand tu veux retrouver ton bon chemin, tu perds du temps. Vous savez, l'ennemi veut nous égarer. Il veut nous égarer. Il te fait miroiter un beau garçon là. Waouh, regarde. Hé, hey, Luana, regarde, t'as vu le beau mec là-bas? Waouh, vas-y. Vas-y, regarde, il est trop beau et tout ça. Mais ce garçon, il n'a pas les motivations que Luana a. Et elle va perdre du temps. Elle va perdre du temps. Et quand elle va réaliser qu'elle a perdu beaucoup de temps, le temps, il est perdu. Il faut vraiment marcher selon les règles de Dieu, selon ses commandements, selon sa parole. Si la parole te dit, ma fille, épouse au moins quelqu'un qui a les mêmes convictions que toi, mais ce n'est pas pour mal, hein. Ce n'est pas pour nous égarer, c'est justement pour qu'on avance dans la même course. Waouh! Pas côte à côte, et ça c'est génial. Quand l'un fatigue, l'autre dit, allez. Quand je fatigue, Patrick me dit, allez Brigitte, continue, on y va. Écoute, je suis fatiguée, je n'ai plus envie. T'y vas. Et ça c'est génial. Si Patrick ne partageait pas la même foi que moi, il me dirait, écoute, allez, arrête quoi. Repose-toi, viens, on va aller un peu, on va au cinéma, on va au resto. C'est pas mal, hein, c'est pas ça que je veux dire, on va au cinéma, on va au resto. Mais voilà, on perd son temps. Ou parfois, on commence la course et on n'est pas équipé, on n'est pas entraîné. Parce qu'on ne veut pas écouter le coach. Notre coach, c'est Dieu. Et on part n'importe comment. On va courir avec des grosses chaussures comme moi, là. Mais non, il faut s'équiper. Tout ça, on va voir par après. Et ça aussi, c'est un truc que Dieu m'a vraiment montré. Comme je vous ai parlé, parfois, on est engagé dans plusieurs courses. Et parfois, on est engagé dans une course relais aussi. En fait, l'Église, nous courons tous. Nous courons tous, mais des fois, nous devons être relayés. C'est ça que je disais, l'appel est grand, mais il y a peu d'engagement dans l'Église. Vous savez, si je fais une course relais, je sais que je dois courir jusqu'à un tel moment, et puis à un moment, je vais m'arrêter et je vais céder la place à celui qui me suit, celui qui est là devant moi. Mais ce qu'il arrive trop souvent dans nos églises, c'est quoi ? C'est qu'on court, on court, et au moment où la personne qui doit nous relayer, elle n'est pas là. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, je cours encore. Et je cours encore au prochain relais, personne. Et je cours encore, personne au prochain relais. Et qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Je vais m'épuiser. Je vais me fatiguer. Pourquoi ? Parce que des personnes ne répondent pas à l'appel. Ou elles répondent, mais ils ne s'engagent pas. C'est plus facile de venir à l'église dimanche après dimanche et d'écouter la prédication. Mais tu dois t'engager dans la course et tu dois prendre ta place. Le pasteur ne peut pas tout faire, les anciens ne peuvent pas tout faire. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi personnellement, Fabienne, ils ont besoin de toi. Prends ta place, s'il te plaît. Je dis toi parce que c'est ma sœur, je peux me permettre. Hein, Fabienne. Ils ont besoin de toi, Élodie. Ils ont besoin de toi, Olga. Mais de toi, si tu n'es pas là, Olga, pour faire le check, là, ben, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Il faut s'engager. Vous savez, quand on s'engage, il y a des entraînements aussi. On doit s'entraîner. On doit s'entraîner et on ne doit pas se contenter de participer. On doit s'entraîner aussi. Et parfois, il y a toute une série de consignes du coach aussi. Parfois, le coach, le Seigneur te dit, écoute, je te donne une stratégie d'attaque. Toi, tu vas frapper à gauche maintenant. On est sur un terrain de boxe, hein, on est des combattants. Et le Seigneur te dit, frappe à gauche. Et moi, je dis non, je frappe à droite. Mais le Seigneur connaît ton ennemi. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je pensais aussi, aux intercesseurs. Vous savez, l'intercesseur, parfois, il est buté, hein. Il vient à l'intercession, il a fait sa petite liste de prières, mais Dieu lui dit, écoute, moi, voilà pourquoi je veux que tu pries. Je veux que tu pries pour l'Église. Je veux que tu pries pour que l'Église prenne du terrain. Et alors, Dieu te dit, voilà la stratégie. Je veux que tu frappes là. Et toi, tu frappes là. Et tu te fatigues. Et tu te fatigues parce que tu n'écoutes pas la stratégie de ton coach. Il connaît les faiblesses de notre adversaire et nous devons être à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire ? Et ne me dis pas que tu n'entends pas. Parce que si tu n'entends pas, c'est que tu ne passes pas du temps à vouloir entendre. Tu dois écouter. Prends du temps dans le silence et écoute la voix de Dieu. Demande-lui qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il va te donner des stratégies. Et comment s'appelle notre adversaire? Contre qui nous avons à lutter? Vous avez peur? Ouais, merci Chantal, heureusement que tu es là. Vous êtes d'accord ou pas? Oh là là! Je comprends ce que tu disais, hein. Parfois tu as l'impression d'être tout seul. Hein. Oh, le pauvre Koulbal qui a l'habitude d'avoir du répondant. Bon, moi je suis Brigitte, hein, ça va, ok. En fait, dans 1 Pierre 5,8, voilà ce que la Bible dit. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est tout le temps en train de rôder. » Et il cherche à te dévorer. Alors, écoute au moins les stratégies de Dieu pour ne pas te faire dévorer. Paul dit aussi, je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire qu'il ne il frappe pas comme ça, non? Si le punching ball est là, il frappe là. Il frappe pas comme ça. Il frappe là où il doit frapper. Sache où tu dois frapper aussi. Dans tes moments de prière, sois attentive, sache où tu dois frapper. Il nous faut écouter les stratégies et parfois, c'est vrai, si on manque de stratégie, sois attentif aussi aux stratégies que le pasteur et les anciens te donnent. Parfois, dans ta vie, tu ne sais plus trop comment tu dois réagir, mais sois attentif. Il y a ton grand coach, mais aussi parfois des petits coachs aussi que Dieu met là à côté de toi. Et il y a des formations que nous devons suivre aussi. Vous savez, Dieu nous demande de nous former, mais si toi, tu préfères aller au cinéma que d'aller te former, ça ne va pas. Par exemple, j'ai recommencé des formations sur le prophétique parce que je sentais que je devais encore m'engager dans la formation du prophétique parce que je veux travailler, je veux avancer, vous comprenez? Et Dieu, parfois, nous demande de faire des choses comme ça. Il met un bouquin dans notre... je veux que tu lises ce bouquin pour faire grandir... te faire grandir dans ton appel. Et Dieu nous équipe aussi. Alors parfois, on a l'impression qu'on peut choisir de mettre un tutu pour faire du football. Vous comprenez? On veut choisir son équipement. Je veux courir avec mes gros talons, mais non, ça ne va pas. Dieu va t'équiper. Dieu va te donner un équipement. Et Dieu va te donner toutes sortes d'équipements. Il va te donner... Alors, j'ai pris un petit peu... mes équipements, il va te donner une casquette, le casque du salut. Une casquette dans ta course, pourquoi? Parce que imaginez le soleil qui tape. Le soleil qui tape, ça me va bien. Le soleil qui tape et tu n'as pas de casquette. Mais tu vas brûler, tu vas vraiment brûler. Et parfois l'ennemi, il tape fort, il frappe, mais mets ton casque. Ta casquette, moi j'ai mis une casquette, mais mets ton casque, le casque du salut. Regarde au salut qui est devant toi. Dieu te promet le salut. Mets ton casque. Vous savez, quand on est un intercesseur, pour donner les coups, on met des gants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des boxeurs, mais qui frappent sans gants, ils sont blessés très rapidement. Dieu te donne des gants. Il te donne des gants et il dit « frappe la cible, frappe la cible ». Et les gants aussi, ça peut nous protéger du froid quand on fait du ski. Mais il y a tout un équipement. On voit les armes du chrétien aussi dans Éphésiens. Le casque du salut, l'épée de la foi. L'épée qui est la parole de Dieu. Il y a aussi les baskets. Alors, vous savez, c'est ce que je disais, tu ne peux pas courir avec tes chaussures à talons, même si tu es une fille élégante, une fille soigneuse, sophistiquée, tu vas vraiment te blesser. Mets les chaussures de l'Évangile aussi à tes pieds. Aie un but de partager la parole autour de toi. Il y a aussi les lunettes pour le soleil, parce que sinon tu es ébloui. Il y a toutes ces choses, les bracelets pour éponger ta sueur. Un sportif, quand il part dans une course, il est franchement équipé. Il a sa gourde, ses lunettes. Je ne sais pas, Maïté, qu'est-ce qu'on met quand on fait une course comme ça? On est équipé, hein, on a déjà des bonnes chaussures, hein, on ne court pas avec une longue jupe. Hein. On met quoi, une casquette, on met quoi encore? Le truc pour s'éponger, c'est peut-être pas utile, mais enfin bon, si la sueur te coule dessus, c'est bien d'avoir quelque chose. Hein. Eh ben, c'est pareil, on est engagé dans un combat avec le Seigneur, on doit être équipé de toutes nos armes, de toutes nos armes. Casque du salut, bouclier de la foi, toutes ces choses-là. La Bible dit que les armes sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renforcer les forteresses. Dans 2 Corinthiens 10, 4, les armes sont spirituelles. Tu n'as pas à combattre avec tes armes, mais combats avec la puissance du Saint-Esprit, avec les armes que le Saint-Esprit te donne. À partir du moment où tu as répondu à l'appel, tu as signé un contrat, ok? Moi, je ne sais pas, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, ok, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, ok. Ben, écoute, tu veux me suivre? Ok, ah ben, signe. Allez, tu signes le contrat maintenant. Tu signes les règles. Voilà, tu veux t'engager dans cette course? Ok, voilà. Tu signes, je signe. Ta tenue, elle est ok? Tu as mis tes baskets? Tu as mis ta casquette? Tu as mis ton short? Tu as mis tout? Tu es équipé? Ok, très bon. Tu as mangé sainement ce matin? Tu as lu ta Bible? Tu as bien mangé ce matin? Tu as lu ta Bible? Super. Alors, tu connais ton coach? Oui, j'ai passé du temps avec lui. Oui, j'ai passé des temps d'intimité avec lui. Je connais mon coach. Je le connais. Je ne vais pas être dirigée par un autre, une autre voix. Non, mon coach, je le connais. Ok. Tu as dormi aussi? Oui. Je me suis reposée dans la parole, dans la prière. Oui, j'ai dormi. Super. Tu as reçu une stratégie pour ta vie? Oui, je sais ce que Dieu veut. Dieu fait brûler quelque chose dans mon cœur. Oui, je sens une sensibilité pour ça et ça. Ok. Tu as reçu les stratégies? Oui, Seigneur, tu me dis dans ta parole que ça et ça et ça. Ok. Tu t'es exercé? Vous savez, quand on ne prêche pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Je ne sais pas, moi. Il faut quand même à un moment donné se lancer et préparer. Tout ne tombe pas tout cuit comme ça dans vos mains. Ou si, je ne sais pas, moi, si vous dirigez la louange, il faut quand même préparer un minimum. Tu es dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux pour ce moment? Si Jean dirige la prière, hein, Jean, tu n'arrives pas comme un clochard. Hein. Comme ça, voilà, on va faire 3 chants. Non, on est normalement un chrétien. Il cherche vraiment à savoir ce que Dieu veut pour lui. Tu as fait tout ça? T'es habillé, t'as dormi, t'as mangé, t'as... Ok, la course commence pour toi. Et elle commence pour toi maintenant. Stéphane, elle commence pour toi. Tu vas courir, hein? Cécile, t'as l'air fatiguée, hein? Vraiment fatiguée. Mais même fatiguée, tu es toujours dans la course. Alors, ton engagement, il est très important aussi. Alors, ce que je vous dis là, je sais bien, ça paraît ridicule. Moi-même, quand j'ai relu, je dis, Seigneur, je ne vais pas parler de ça quand même. Même quand je voyais tous ces trucs, je trouvais ça un peu comique. Mais bon, voilà, moi, je fais ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Alors, il m'a aussi montré que l'engagement était très important. Alors, je voyais des enfants qui jouaient aux petits soldats. Moi, je ne suis pas, je n'ai jamais joué aux petits soldats, mais je sais bien que mon frère, il aimait bien jouer aux petits soldats et tout ça, et c'était cool. Et parfois, nous, chrétiens, on croit que la vie, c'est ça. Que l'engagement avec Christ, c'est jouer aux petits soldats. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas jouer aux petits soldats, tu es réellement un soldat. Hein. On ne joue pas à l'église. On ne joue pas à être chrétien. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Vous savez, quand on... Je ne sais pas, je n'ai jamais fait du foot non plus, mais quand on est joueur de foot, tous les joueurs ne jouent pas. Il y a des joueurs où, dans une équipe de basket, il y a le banc, là, le banc de réserve, le banc de touche. C'est comme ça qu'on dit aussi, Patrick, le banc de touche. Enfin, on est sur la touche, on est sur le banc de réserve, là. Et... Parfois, il y a des joueurs, ils passent tout le match de foot à regarder leur équipe. Et ils sont là, ouais, vas-y, tu vas marquer. Et ils sont toujours sur le banc de réserve. Et quand l'équipe a gagné, ils font la fête. Ils vont boire un verre avec les autres, ils vont danser aussi avec les autres. Ils sont tout fous parce qu'ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il était sur le banc de touche, le banc de réserve. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on est comme ça. On est des chrétiens qui sont sur le banc de touche, le banc de réserve. On encourage tout le monde, mais on ne fait rien. Mais quand l'équipe a gagné, on est content. On fait « Waouh, l'église avance, t'as vu, on est passé de 50 à 70. » Mais tu étais sur le banc de touche, toi. Tu étais sur le banc de touche. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas, il ne nous demande pas de regarder ce qui se passe. Il ne demande pas que tu encourages toujours ton frère et ta sœur. Il veut aussi que toi aussi, tu participes. Il y a des chrétiens, ils se disent « Ok, j'accepte le Seigneur, je suis sauvé, merci, amen, gloire à Dieu, alléluia, hop, c'est bon. » Mais ce n'est pas ça. Être sauvé, on est sauvé et c'est génial de le savoir. Hein. Tu acceptes Christ, tu reçois le salut. Waouh ! Et après ? Et après ? On fait quoi avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a des chrétiens, voilà. Moi, j'étais comme ça pendant des années en plus. Donc, je peux franchement vous en parler. Pendant des années, j'étais dimanche après dimanche sur ma chaise. Et voilà. Mais à un moment donné, Dieu te dit, allez, lève tes fesses. Hein. Vas-y. Hop, hop, ne laisse pas celui qui court sa course relais sans faire au moins sans que tu puisses prendre un morceau, alléger un morceau, allège-le d'un temps, allège-le dans sa tâche. Mais parfois, voilà, nous chauffons les bancs. Et parfois aussi, si nous sommes toujours sur la touche dans une église, dans un match, nous allons changer d'équipe. On va voir ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, on pourra peut-être nous demander de participer au match. Mais pourquoi on ne te demande pas de participer au match ? Parce que tu ne t'entraînes pas. Tu n'es jamais là aux entraînements. Tu n'es pas aux prières. On ne te voit pas. Quand il y a des formations, tu n'es pas là. Mais tu veux aussi pourtant participer au match. Mais tu ne peux pas participer au match. Tu n'es pas équipé, tu n'es pas entraîné. Tu es sur le banc de touche avec ton tutu alors que tu dois courir. Ça ne va pas, il faut être conséquent. Mais Dieu veut que tout le monde joue une partie du match. Il a besoin de toi. Et parfois, le pire aussi, c'est quoi ? C'est que non seulement ils vont d'église en église, les chrétiens qui sont toujours sur le banc de touche, parce qu'ils ne veulent pas s'entraîner, parce qu'ils veulent être leur propre coach, mais parfois même ils se lassent, parce qu'après avoir fait une, deux, trois, quatre, cinq églises, ça devient lassant. Parce que les églises ont besoin de chrétiens qui s'engagent. Ben, ils changent de discipline, carrément. Oh, ben, puisqu'on ne me veut pas, ben, moi je fais autre chose. Et ils se tournent vers des choses qui sont affolantes. Ah. Il faut que tu marches aussi dans ta discipline. Dieu, c'est la discipline pour laquelle tu es appelé. On n'est pas tous des boxeurs. On n'est pas tous des bons nageurs. Moi, je ne sais pas nager. Je sais faire une brasse qui ressemble à une brasse de grenouille. J'ai peur dès que ma tête est sous l'eau, mais Dieu ne me demande pas de nager. Il me demande peut-être de courir parce que je sais courir. C'est Dieu qui te place et c'est Dieu qui choisit ta discipline. Il fait brûler un truc en toi. Est-ce que Dieu ne fait pas brûler quelque chose en toi ? Sois attentif à ce que Dieu fait brûler en toi. Il utilise aussi les talents naturels qui sont en toi. Il ne va pas demander... Si tu as de la souplesse, tu vas être plus doué pour la danse, peut-être. Mais si tu es raide, il ne va pas te demander de danser. Dieu utilise aussi les choses, tes talents naturels. Sois attentif à tes talents naturels. Et il faut aussi évoluer dans notre appel. Vous savez, un enfant de 3 ans qui fait un petit bonhomme avec un rond et des petits... Ouais, c'est super, waouh ! Il vous apporte ça, vous êtes tout content. Waouh, quel beau dessin ! C'est moi ? Oui, c'est moi. Oh, ok, c'est beau. Mais à 18 ans ou à 23 ans, si Jérémy m'apporte un dessin et qu'il me dessine toujours avec un cercle, et je vais dire, mon enfant a un problème. Mais c'est pareil. Si après 30 ans de vie chrétienne, tu es toujours au stade où tu viens tous les dimanches et c'est tout, il y a un problème. Il faut évoluer dans ton appel. Il faut que tu évolues. Tu es placé par Dieu. Alors, il faut que tu cours dans ton couloir. Vous savez, dans des courses, là, sur piste, là, tu dois courir dans ton couloir. Tu ne peux pas, à un moment donné, dévier et te dire « Je cours dans le couloir numéro 2 alors que je suis dans le couloir numéro 1. » Tu vas gêner. Tu vas gêner celui qui court dans le couloir numéro 2. Mais c'est comme ça, parfois. On court dans un couloir qui n'est pas le nôtre. On veut l'appel de l'autre. Waouh, Alice Waouh, Alice, elle chante bien. Moi, je vais m'inscrire au groupe de louanges aussi maintenant. Parce que c'est trop bien quand même ce qu'elle fait. Mais tu ne sais pas chanter. Donc tu vas gêner, tu vas encombrer. Il faut vraiment qu'on court là où Dieu t'appelle de courir. Il faut que tu serves là où Dieu t'appelle de servir. Je vois Florence. Florence, elle sert à la Outwesh, mais super. Hein, Florence, c'est vrai. Hein. Bah, tu ne vas pas le dire, toi. Mais moi, je sais que tu sers beaucoup à la Outwesh et que tu cours vraiment dans ton couloir. Florence ne va pas commencer à venir prêcher dans ma rue. Enfin, je ne sais pas. Elle pourrait le faire, c'est vrai. Mais il faut savoir ce que Dieu te demande et tu marches et tu cours là où Dieu te demande de courir. Et aussi, il ne faut pas que tu regardes en arrière. Ça, je l'ai déjà dit, comme Paul dit, je cours, oubliant le passé. Trop de chrétiens courent en regardant toujours en arrière. Ils courent. Et puis, ben non, tu cours devant toi. Tu vois les obstacles qui sont devant toi. Tu cours. Tu ne regardes pas en arrière. Tu n'as pas de regrets sur ton passé. Ah, dans ce temps-là, c'était bien, je l'ai déjà dit. Avant, l'église, elle fonctionnait bien. Maintenant, ce n'est plus pareil. Ou je ne sais pas, mais tu ne sais pas d'où je viens, moi. Tu sais, j'ai beaucoup souffert. Et on reste dans le passé. Mais pour courir, tu dois aller vers l'avant. Tu dois courir vers l'avant, vers le but, vers le salut. La course, elle s'arrête quand? Dites-moi. Quand elle s'arrête, la course? Quelle fin? La mort. Quand on sera au ciel, hein? Quand on est au ciel, Dieu dit, viens, oh waouh, t'as couru super bien, toi. Il te donne une couronne. Il te remporte le prix qui est la vie éternelle avec lui. La course, elle ne s'arrête pas. Hein? Tu peux te reposer un moment, parce que Dieu sait que tu es blessé parfois. Et il va panser tes blessures, parce que c'est notre grand kiné. Mais tu dois continuer. Hein? Déjà, lève-toi. Si tu n'as pas encore commencé à courir, maintenant tu cours. L'Église a besoin. Hein? L'Église a besoin de gens qui s'engagent, hein, Luc. Hein? On se fatigue hein, des fois. Hein, Jean, on est fatigué des fois. Hein? On a besoin de gens qui prennent leur place. Dieu ne parle pas qu'à 2-3 personnes. Dieu n'a pas que quelques conducteurs de louanges. Dieu n'a pas que, je ne sais pas moi. Toi aussi, tu peux vraiment servir le Seigneur. Tu peux vraiment le servir. Et si tu te sens faible, c'est super. C'est super. Parce que quand tu te sens faible, ah ben c'est génial, parce que Dieu manifeste sa puissance. Moi, je me suis sentie très faible, vous pouvez demander à Patrick. Hein. J'ai dit, Seigneur, tu me montres tout ça, ok, je veux bien le partager, mais tu sais comme j'ai peur. J'ai vraiment peur, j'avais vraiment très peur. J'étais pas bien toute la semaine. Mais vous savez, à un moment donné, il faut se lever. Hein. Je ne suis pas appelée pour rester sur mon banc. Et courir, ça fatigue. Et ça m'a fatiguée pendant toute cette semaine. Hein. J'étais fatiguée parce que j'ai dû lutter avec mon stress, avec mes raisonnements. Je ne vais pas dire ça. Ben si. Alors ça peut paraître ridicule ce que je vous transmets. Vous connaissez tout ça. Mais je le fais. Je le fais. C'est comme j'expliquais aussi. Ouais, je parlais du kiné. Je disais que Dieu était notre kiné. Vous savez, dans la course, on se blesse, hein, non ? Vous n'avez jamais été blessé, vous. Peut-être même par une parole d'un frère ou d'une sœur, hein, d'un coureur qui veut vous bousculer, là, vous savez, qui vous fait un croche-pied comme ça, hop, celui-là. On est comme ça parfois. Hein, on court et on reçoit des coups de l'autre, il nous donne un coup en passant. Mais Dieu est là pour nous penser, il est là pour nous guérir. Et il faut que toi aussi tu pardonnes. Parfois une église peut te décevoir, un frère, une sœur peut te décevoir, mais toi pardonne, pardonne. Tu m'as fait un mauvais coup là, mais écoute, je pardonne, je pardonne. Je veux aller de l'avant, je veux courir, je veux remporter le prix. Et si tu ne pardonnes pas, hein, tu vas être lourd dans la course. Hein. Parce que le non-pardon amène à la vengeance souvent. Si je cours et que Marie-Paul, qui court plus vite que moi, tu vois, Marie-Paul, elle passe à côté de moi, mais je vois qu'elle court plus vite que moi. Je lui fais un croche-pied. Marie-Paul commence à dire, mais c'est qui cette fille-là? Elle commence à maugréer. Ah ben, elle va, à un moment donné, on a envie de se venger. Elle va essayer de me rattraper, me foutre un coup plus fort. Ce n'est pas la réalité. Mais non, dans l'église, on court un marathon. On est ensemble. On court ensemble, on relève celui qui tombe. Je vois que tu tombes, Jean-Paul, mais je te relève. Allez, allez, Jean-Paul, je te prends avec moi, on y va. On va jusqu'au but, jusqu'au but. C'est ça aussi, le marathon. C'est courir ensemble, mais pas courir égoïstement. Pas égoïstement. On court ensemble. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand je dis relève-le et encourage ton frère et ta sœur, ce n'est pas l'encourager non plus sur le côté de la course. Vous voyez, les parents font ça. Hein. Quand moi, je faisais mon cross et les parents sont sur le côté. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien. Mais si maman court à côté de moi, waouh, c'est encore mieux. Cours à côté de celui qui faiblit. Cours avec lui. Ne dis pas simplement des mots, mais cours avec lui. Comme je disais, notre chemin n'est pas toujours une piste, un beau chemin bien propre. Des fois, on doit courir dans la boue, on est éclaboussé par les on-dit, par les mensonges, les jalousies. Mais on se relève, on pardonne, on se relève, on continue, on ne se fatigue pas. Même si on doit marcher à un moment donné, on marche. Et Dieu donne un second souffle. Parfois, on se fatigue dans le ministère, mais Dieu donne toujours un second souffle. Et quand on a le second souffle, waouh ! Je ne sais pas s'il y a des coureurs, toi, Maïté, tu cours, hein. Hein, au début, c'est difficile. Hein. Et puis, à un moment donné, tu ne te comprends pas, mais tu as... Comme c'était Lucien qui disait ça. Il y a un second souffle qui vient et tu te sens à l'aise de courir. Ben, Dieu est ton second souffle. Il faut aussi se mettre des objectifs qui sont réalisables pour nous. Tu ne vas pas courir 30 km si tu n'es pas entraîné pour courir 30 km. On ne va pas te demander de prêcher devant une foule de personnes si tu n'es même pas déjà entraîné à prêcher devant 10 personnes. Mais sois attentif à ce que Dieu te demande. Peut-être qu'il te demande de prêcher à une personne, mais tu le fais. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi. L'ennemi est l'intimidateur. Lui, il va toujours te dire que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas. Il va essayer vraiment de te figer sur place. Alors voilà, j'arrive à la fin. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ta course, tu sois non pas seulement un débutant, mais que tu deviennes un professionnel. Alors, les jeunes surtout ont besoin d'être admiratifs devant une vedette. Vous savez, je ne sais pas moi, Jérémia, il avait ses vedettes au basket. C'était qui toi encore, Jérémia? Mais dis, tu avais eu la vareuse de qui encore? Et tu étais tout content de Mo Finlay. Ah, il avait eu la vareuse de Mo Finlay. Waouh, quoi! C'était pas. D'ailleurs, est-ce qu'on a même pu la laver, cette vareuse? Ah, heureusement. Mais des fois, on est comme ça. Ouais, je sais pas, vous allez voir une star, elle vous jette son manteau. Waouh, quoi! Vous avez un amoureux et puis vous dormez tout le temps avec son écharpe. Voilà, c'est comme ça. Ah ben, on doit être comme ça aussi. Pour les gens qui nous entourent, pour les concurrents, pour les participants, on doit être comme ça. On doit être des gens qu'on a envie de suivre. On doit pouvoir donner des conseils aussi. Mo Finlay, il t'aurait donné des conseils, tu aurais été tout content. Hein. Il aurait dit, écoute Jérémia, voilà, tu fais ça, ça et ça. Waouh quoi. Non, c'est génial. Moi, j'aime bien quand quelqu'un me donne des conseils, quelqu'un qui dit, écoute, non, ça, c'est pas trop top. Fais pas ça comme ça, mais fais ça plutôt comme ça. C'est génial. Ça nous pousse à l'avant. Mais on doit être comme ça. On doit être de ces personnes qu'on a envie. Mais si tu restes tous les jours, dimanche après dimanche sur ton banc, personne ne va t'envier. Mais dès que tu te lèves, on se dit, tiens, Clara, mais t'as vu Clara, elle fait la projection maintenant. Hein? Waouh! Elle était sur sa chaise, maintenant elle fait la projection. Mais c'est génial, quoi, parce que si on n'a pas de projection, ça ne fonctionne pas. C'est hein, Clara, Lara. Je parlais de Clara, Lara. Oh, toi aussi, on a besoin de toi. Et c'est génial. Ça peut paraître bête, mais c'est super. Le café. Si Stéphane ne prépare pas le café, on n'a pas de café. Hein. Et c'est génial parce que c'est une course. Ça paraît peut-être petit, mais c'est une course. Alors, je termine maintenant. Après avoir couru, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait du sport, qu'est-ce qu'on fait? On rentre puant chez soi? On fait quoi? On prend sa douche. Heureusement. Hein. Et toi, ta douche, elle sera au ciel. Tu auras une bonne douche avec du savon parfumé. Quand tu seras à la fin, Dieu va... Wow. Mais ce n'est pas de cette douche-là que je voudrais vous parler. C'est une douche aussi qui enlève les crasses. Vous savez, quand on court dans le cross, on est boueux. Hein. Tu as l'autre qui t'éclabousse avec sa boue. Je ne sais pas, tu as transpiré. Ah ben, quand tu es dans ta course, de temps en temps, pose-toi, pose-toi. Lave-toi. Tu dis, Seigneur, enlève toutes tes impuretés. Enlève les impuretés, tu vois. Je te sers, mais lave-moi. Lave-moi. Nettoie-moi. Je me remets en question. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas été dans ma marche jusque maintenant avec toi? J'ai couru, mais quoi? Mais écoute, tu cours, mais tes baskets, elles sont toutes crades. Elles sont crados, là. Il faut que tu les laves. Ok, Seigneur, je vais laver mes baskets. Et puis, à un moment donné, hein, vous savez, on court avec des belles baskets. Mais les baskets, à force, elles deviennent... Vous savez, il y a les baskets des ados, là. On les dit, écoute, mets-les dans la cave, parce que, ah, il y a une odeur. Et parfois, à un moment donné, pas parfois, souvent, il faut acheter d'autres baskets. Ou bien le pied grandit. Jérémie ne peut plus courir avec les petites chaussures qu'on lui avait achetées au début. Ça aussi, c'est quelque chose pour nous. Il faut arrêter de toujours vouloir garder l'ancien. Il faut entrer dans le nouveau. Nous devons entrer dans le nouveau. Ce qui marchait il y a 10 ans, quand tu faisais de l'évangélisation en rue, ne marche plus maintenant. Sois attentif à ce que Dieu veut pour toi. Alors, la fin des fins, réengage-toi. Engage-toi, ne perds plus de temps, va avec la force que tu as. Et je voudrais, Jérôme, si tu peux mettre la petite vidéo pour terminer, qui dure 2 minutes et j'ai fini. Là, j'étais très longue. 2 minutes et c'est fini.
Now, faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. For by it, the people of old received their commendation. For by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
Et à entrer dans cette course, Jésus-Christ est entré dans cette course et il a couru, il a combattu et il a remporté le prix. Alors suis ton coach, combat le bon combat de la foi et pratique. Les œuvres, fais les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Amen.